Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission mensuelle avec le Cercle laïque et Martine Vivès va nous introduire aux activités, puisque aujourd'hui, ce sont des ateliers et des activités du Cercle que nous allons présenter dans l'émission.
Bonjour, aujourd'hui c'est Amandine Douteau-Poirou qui va être en vedette avec ses activités. Lorsqu'elle a contacté le Cercle laïque, Amandine Douteau-Poirou nous a parlé donc de ce qu'elle souhaitait mettre en place, des activités essentiellement parents-enfants. Et bien évidemment, nous partageons cette conviction que les relations parents-enfants sont primordiales pour un bon développement de la personnalité, que si on est bien dans ses relations familiales, on a tout de même de plus grandes chances de devenir un adulte équilibré. Donc je vais la laisser parler elle-même de ses activités, parce que c'est pour ces raisons-là qu'on l'a volontiers accueillie dans nos murs.
Merci beaucoup. Alors, Amandine, quelle était la motivation ?
La motivation, ça date déjà un peu. En fait, je suis infirmière puéricultrice et j'avais travaillé déjà lors de ma formation de puéricultrice sur l'utilisation du chant pour accompagner le lien parent-enfant. Et j'avais fait un stage et puis des entretiens avec des personnes déjà à ce moment-là. Et je souhaitais donc mettre en place des ateliers comme cela. Bon, malheureusement, ce n'était pas possible en PMI quand j'y suis allée. Les actions étaient en faveur d'autres missions. Voilà, donc j'avais ça dans la tête. Et puis, je me suis dit que j'allais le proposer bénévolement pour pouvoir le mettre en place. Et donc, je me suis rapprochée du Cercle laïque. Voilà.
On peut aussi donner des informations aux auditeurs pour dire quand elles se tiennent.
Alors, c'est un samedi par mois, le deuxième samedi de chaque mois, le matin, donc de 9h30 à 10h30 pour le chant par enfant. Il s'agit de prendre un temps de plaisir avec son enfant en chantant des petites comptines, aussi avec le toucher, par des petits massages, et prendre plaisir avec d'autres parents, créer des contacts et donc forcément favoriser le lien qu'il y a entre le parent et l'enfant. Et l'autre atelier que je propose, là c'est à l'issue de ma formation d'art-thérapie, j'ai proposé un atelier de créativité artistique qui se déroule de 11h à 12h30, le deuxième samedi de chaque mois aussi. Et là, j'avais ouvert aux parents et aux enfants, mais j'ai plutôt des enfants. Donc j'axe les objectifs plus sur aussi prendre du plaisir, sans forcément des techniques particulières, mais en fait ils sont assez étonnés du résultat qu'ils retrouvent, et en fait ils prennent confiance en eux, ils voient qu'ils sont capables de faire des choses très belles. Et puis aussi c'est l'axe de la créativité qui permet un peu d'aller de l'avant, d'être dans le moment présent, de trouver des nouvelles ressources, qu'on soupçonne pas forcément, et en allant les creuser un petit peu avec cette créativité artistique, eh ben, on se donne aussi les moyens de les mettre en œuvre dans d'autres domaines de la vie par la suite.
On remplit pas simplement le coloriage, mais véritablement l'enfant puise en lui-même la capacité de découper, de créer, de faire plein de choses.
C'est ça, donc en fait, après j'utilise effectivement les fondements de l'art-thérapie dans cet atelier quand même, c'est qu'on se laisse aller à sa créativité. Alors quelquefois on peut avoir un support pour faire une copie, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça, et donc ils vont passer par la copie avant de se laisser aller, mais le but c'est quand même de se laisser guider par ce qui se passe au moment présent, donc sans penser faire quelque chose forcément à la base. Donc on débute un dessin et on ne sait pas forcément où on va aller. Et puis à la fin, souvent, même presque à chaque fois, on est assez étonné du résultat qui est beau, qui est artistique.
Qui donne aux enfants confiance en eux-mêmes.
Oui, que c'est ça l'objectif. Parce qu'ils voient qu'ils sont capables de faire des choses qui tout de suite montrent un bel effet. Donc la confiance, l'estime de soi augmente forcément. Quand on se voit capable de faire quelque chose de beau, ça a une incidence.
Quel est le regard des parents, puisque vous dites ils ne sont pas venus, mais en fait ils amènent leurs enfants, parce oui. qu'ils ont peut-être quand même un regard et, qui évolue en voyant les choses se dessiner.
Oui, alors c'est arrivé même aux premières séances qu'ils soient assez étonnés de ce que l'enfant avait fait en une heure et demie et sans technique particulière. C'est vrai que ça les a quand même bluffés pour certains parents. Et puis après, dans l'évolution, les parents qui viennent quand même ont un souhait que leur enfant prenne du plaisir, ait une activité où il s'épanouit. Donc je pense que ça répond à leur demande, ça c'est sûr.
Quel âge ont les enfants qui viennent dans ces ateliers ?
Ils sont en primaire, à partir du CE1, CE2. Et puis, ça peut aller jusqu'aux adolescents, au collège aussi.
Ah oui, donc il y a aussi une hétérogénéité parmi les enfants qui viennent.
Oui, bah, de toute façon, l'atelier étant ouvert même aux adultes, le mélange d'âge est possible, ça n'a pas d'incidence puisque le but n'est pas d'apprendre des techniques mais surtout de se laisser aller à sa créativité dans soit la peinture, soit les crayons, soit le pastel, le collage, le modelage. Moi après je les aide au fur et à mesure de leur avancée. Je leur donne par contre des petits outils pour qu'ils quand même puissent faire ce qui vient et ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué en soi.
Et quel est l'impact du regard des enfants les uns sur l'œuvre des autres, si j'ose dire, ou sur le travail des autres ? J'imagine que en dessin, ou tu fais ça comme ça, non ? Il n'y a pas aussi l'interrelation ?
Si, alors au début, il y a un peu comme une compétition, il y aurait un peu ça. Et puis moi, c'est vrai que dans les groupes, je leur explique bien que le but, c'est de ne pas se juger les uns les autres, de pouvoir laisser chacun faire ce dont il a envie. Et après, ça disparaît, en fait. Et même dans ce cas, ils ont plutôt... Enfin, il y a du jugement, mais positif. Ils vont donner
des idées, et ce n'est pas la compétition.
Voilà.
Donc, c'est aussi véritablement un lieu d'éducation, à une autre relation que être le plus fort ou être le premier.
Oui, ah oui, ça c'est sûr. Là, dans cet atelier... Ça serait contre-productif de garder cette idée-là, d'être le premier. C'est le but, je vous dis, c'est que chacun se laisse aller. Donc il ne faut pas qu'il y ait de crainte d'avoir un jugement négatif d'une autre personne.
Et alors, dans l'atelier où il y a la relation parent-enfant qui existe, dans le champ donc, comment les choses se passent ? Dites-nous un peu précisément,
alors,
concrètement.
Concrètement, les enfants arrivent avec les parents et moi je démarre souvent par un chant d'ouverture, un chant où chacun dit son prénom pour se mettre un petit peu dans le bain de l'atelier. Et puis en fait, moi après je suis un petit peu l'état des enfants le jour de l'atelier. Donc je m'adapte. Si l'enfant est calme, ben je vais plutôt proposer des comptines de balancement, enfin des berceuses, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure où l'enfant un petit peu est plus éveillé, je vais proposer des chants un peu où on bouge, où on utilise les mains, on utilise les parties de son corps. Et puis, les parents, en fait, ils chantent avec moi. C'est moi qui initie souvent les comptines parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, bien qu'au fil des séances, ils sont de plus en plus à l'aise et parfois commencent à proposer eux aussi des comptines. D'ailleurs, moi, je les invite à le faire au fur et à mesure.
Élargie,
voilà.
Mais
c'est vrai qu'au début, c'est plus moi qui initie. Et puis, voilà, au fur et à mesure, après, ça va être des petites chansons à papouille où on joue aussi avec le parent à faire des guilis, à faire des petits sons. Voilà, ça évolue au fur et à mesure du temps de la séance. Vraiment, j'ai jamais un truc préconçu, je m'adapte au fur et à mesure. Et puis donc après, c'est au moment où on fait des chants avec les gestes que là, les massages sont aussi possibles, où on fait des caresses, ou alors on peut initier un massage un petit peu plus approfondi si les enfants sont réceptifs.
Qu'est-ce qui a amené les parents à faire cette démarche ? Parce que tout de même, c'est particulier. Alors c'est vrai qu'il y a des revues dans les propositions pour les enfants où on évoque ça, les jeux de doigts, les jeux de toucher, mais penser qu'on va le faire ensemble, c'est quand même un pas de plus.
Les parents, je pense qu'ils y sont déjà... Ils sont déjà au courant,
les parents qui viennent.
Ils sont déjà attentifs.
Ils sont attentifs à ces questions.
Ils sont informés sur ces questions-là et donc ils viennent en connaissance de cause. Après, je pense qu'ils trouvent un intérêt à partager aussi ce moment, ou alors ils n'arrivent pas forcément à se poser à la maison et le faire. Donc ils se disent que au moins c'est un temps où ils vont le faire avec leur enfant.
Parce que l'ayant fait ici, ils peuvent aussi le faire à la maison.
Ils le refont à la maison en général, entre deux ateliers. Ils chantent.
C'est un atelier par mois, donc effectivement, oui. C'est important qu'il y ait d'autres temps où on retrouve cette créativité. Et à vous, qu'est-ce que cela apporte ?
Moi, c'est du plaisir aussi. Ça apporte... moi, mon souhait, c'est vraiment d'aider, d'accompagner l'enfant et de le faire évoluer pour qu'il soit le plus équilibré possible quand il sera adulte. C'est ce qui m'a motivée à faire mon métier. Quand je fais ça, c'est permettre à d'autres, à des enfants, à des parents, à pouvoir vivre cette relation et puis donner un plus à leur enfant pour leur vie future, quoi. Ils ont des petites clés, des petits outils avec lesquels ils repartent. Et puis, c'est une petite graine qui germe et qui appelle après à aller chercher d'autres choses.
Est-ce que vous êtes entendu dans votre travail là, professionnel de PMI ? Parce que j'imagine que l'un influence sur l'autre.
Oui. Je suis entendue, les personnes avec qui je travaille
sont persuadées de ta
sont persuadées d'efficacité. Après,
de temps et de...
ce n'est pas possible de le faire dans nos services actuellement, donc ça n'est pas fait. Mais en tout cas, toutes les collègues puéricultrices, les médecins, les sages-femmes. Toutes les personnes avec qui je travaille en sont convaincues. Donc, c'est quelque chose d'important.
Et là, l'atelier chant s'adresse à des enfants plus petits.
C'est à partir de la naissance jusqu'à 3 ans environ avant l'école.
Oui, c'est ça. Donc, merci, madame, de nous avoir parler de cette activité. Et je rappelle aux auditeurs que l'activité se déroule le deuxième samedi de chaque mois, c'est au Cercle Laïque, et il faut s'inscrire, j'imagine, au secrétariat, et ou bien vous téléphonez au Cercle et on vous donnera toutes les indications, parce que je crois que il y a là une source intéressante de travail avec ces enfants.
Merci.
Parmi les activités du Cercle Laïque, et une des plus anciennes, il y a le tai chi qui est mené par vous, donc depuis bien longtemps au Cercle.
Voilà, je m'appelle Chin Trinh et notre activité a débuté en 1995 au sein du cercle laïque à Dreux. Eh bien, notre activité est donc basée sur la pratique de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, c'est une discipline chinoise millénaire dont l'origine s'est perdue un petit peu dans la nuit des temps. Et les premières codifications, eh bien, on a retrouvé les traces au cours des âges, dans les tombeaux, etc., etc. Et les premiers écrits et codifications ne sont apparus qu'entre le 18e et le 19e siècle.
Est-ce que c'est un art martial ?
Au début, c'est tout à fait un art martial, donc combatif, basé sur l'observation de la nature, les phénomènes naturels, et aussi, surtout, l'observation des animaux qui chassent prédateurs ou proies ou victimes. Et en observant, eh bien, les gens ont retenu qu'est-ce qui constitue l'efficacité afin de pouvoir
se défendre ou attaquer.
Voilà. Et donc, au début, c'était un art martial. Et au fil des âges, eh bien, ça évolue en une discipline. Et maintenant, on peut dire que c'est une discipline énergétique globale. Ça peut...
Très sportive. Il faut faire beaucoup de sport pour faire du tai chi.
Sûrement pas. Dans le sens que notre discipline n'a pas de compétition. Et donc, il n'y a pas de performance à réaliser. Sauf que la Chine, qui constitue le berceau du Tai Chi Chuan, n'a de cesse que d'essayer de mettre le Tai Chi Chuan en tant qu'activité olympique. Ils ont essayé déjà en 2008, qui n'ont pas abouti, et je pense qu'ils vont encore recommencer jusqu'à ce que...
Ça aboutisse, comme c'est voilà, un grand pays financeur, j'imagine qu'ils y arriveront.
Ils perdent tout son poids pour cela.
Oui. Quand même, précisez-nous un peu ce que c'est, parce que ça veut dire aussi que les gens qui peuvent avoir envie de pratiquer cette activité en sachent un peu plus.
Oui, alors ce sont des mouvements très lents, car les mouvements sont gérés par la respiration. Et donc ce sont des mouvements qui respectent absolument la lenteur et la progression, le déroulement dans le temps. Souvent, on compare le tai chi avec l'expression « c'est l'éloge de la lenteur ». Voilà. C'est-à-dire que, eh bien, quand on fait un geste, eh bien, il va falloir que tout le corps soit animé par le geste et le tout est géré par la respiration. Et ce qui fait que, quand on pratique le tai chi, eh bien, si nous faisons dans la vitesse... Eh bien, ça nous approche, c'est ce qu'on appelle les arts externes, comme le kung-fu, karaté, judo, etc.
Alors, ça se rapprocherait plutôt du yoga dans ce cas, dans l'esprit, pour la respiration, pour la maîtrise du corps.
Voilà. Disons que l'esprit, de toute façon, tout le monde essaie d'atteindre le même but. C'est le bien-être. C'est la recherche du bonheur pour le corps, pour soi, pour les autres, etc. Mais ce sont les chemins qui sont différents. Le yoga, ce sont des postures la plupart du temps, tandis que le tai chi, eh bien, ce sont des mouvements.
D'accord, et donc, il y en a un bouge et l'autre on...
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et dans les disciplines chinoises, il y a aussi le qigong, qui sont aussi des postures. Et là, ils ne bougent pas. Mais il génère aussi l'énergie comme le tai chi. Mais le tai chi, eh bien, la spécificité, c'est en mouvement.
Donc des mouvements. Et j'imagine qu'il y a aussi des niveaux, non ? Comment ça
Alors,
se passe ?
Alors, au point de vue tai chi chuan, traditionnel et originel, on appelle le tao. Le tao veut dire l'enchaînement. Et l'enchaînement traditionnel est composé de 108 mouvements. Voilà. Et les 108 mouvements sont répartis en trois niveaux. Le premier niveau, on appelle la terre. Le deuxième niveau s'appelle l'homme. Et le troisième niveau, eh bien, c'est le ciel. Et une fois qu'on a étudié les trois, eh bien, on peut dire qu'à partir de maintenant, on peut pratiquer le tai chi.
Ah bon, et avant, on pratique quoi alors? On pratique l'apprentissage.
Avant, c'est l'apprentissage, c'est l'étude. Et une fois qu'on a connu tous les 108 mouvements, là, on peut dire qu'on a intégré le tai chi, et c'est là où on peut commencer. Et on peut commencer et on va continuer jusqu'à la fin.
Alors, c'est une activité qu'on peut pratiquer de 7 à 77 et plus?
Alors, dans notre groupe, Denise Galland, eh bien, elle a 89 ans. Et la personne la plus jeune, eh bien, elle a dans les 28 ans.
Oui, d'accord, donc...
Voilà, c'est une population assez large, et d'autant plus que dans le tai chi, eh bien, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que dès l'instant que quelqu'un qui s'est intéressé, eh bien, il peut toujours venir pratiquer. Donc, il n'y a aucune contre-indication.
Aucune contre-indication. Au cercle laïque, qu'est-ce qui a amené justement cette importance du tai chi et cette relation au cercle laïque tai chi? L'opportunité des rencontres peut-être?
C'est plutôt une conviction.
Une conviction.
Une conviction dans le sens que en ce moment-là, j'ai commencé déjà à enseigner le tai chi dans la région,
oui.
Mais je n'ai pas trouvé une infrastructure qui correspond. Parce que notre groupe s'est développé de plus en plus. Et je connais très bien Jean-Pierre Dubreuil, Doud, et puis beaucoup de gens du cercle.
D'accord.
Et je connais parfaitement leur engagement dans la laïcité. Et c'est cet esprit-là qui m'a complètement convaincu de venir leur proposer ce que je fais en tant que bénévole.
D'accord.
Et donc... ça fait 22 ans que je suis bénévole au Cercle Laïque.
Pour présenter cette activité. Voilà. Alors, on va être aussi très concret. Par exemple, si un auditeur se dit, eh bien, moi, ça m'intéresse le tai chi, qu'est-ce que je fais? Quelle démarche je fais?
Alors,
le cercle.
Voilà, absolument. Alors, cette activité se pratique au Cercle Laïque. Alors, nous avons...
Il y a des cours peut-être différents, oui, tout à fait, des tout accueils à fait. Différents.
Par exemple, le lundi, nous avons les cours de 18h à 19h30 pour les deuxièmes années. Le mercredi, de 18h à 19h30, c'est pour les troisièmes années, c'est-à-dire le ciel. Et le jeudi, de 18h à 19h30, c'est pour le premier niveau, c'est le Tao de la Terre. Eh bien, ça, ce sont pour les gens de première année, des débutants.
De première année.
Voilà.
Donc, les gens qui débutent, il faut se présenter le jeudi de 18h à 19h30.
Voilà, tout à fait.
Il y a des
et étant donné que c'est une discipline énergétique, je propose aux gens toujours de faire 4 séances d'essai. Qui viennent pratiquer en toute liberté, et c'est après les 4 séances d'essai, c'est-à-dire après un mois.
Oui.
C'est après un mois qu'ils vont décider s'ils veulent continuer ou pas.
Quand vous dites une discipline énergétique, j'aimerais que... Qu'est-ce que ça veut dire, une discipline énergétique?
Alors...
Parce qu'il y a des boissons énergétiques, je trouve que, bah non, non, justement.
Oui, oui, tout à fait. énergétique dans le sens que... Je vais parler maintenant de la civilisation chinoise. Eh bien, c'est basé sur cette notion d'énergie vitale qu'on appelle le qi. Le qi, c'est cette énergie qui nous accompagne depuis le début jusqu'à la fin de la vie.
Bon, c'est l'énergie vitale, d'accord.
C'est ça. Et les Chinois, ils appellent ça le qi. Et le tai chi chuan, le tai qui veut dire le toit de la maison, le sommet de la montagne, c'est quelque chose de grand. Qi, c'est cette énergie, mais c'est aussi qui exprime les deux pôles, qui est le yin et le yang.
Oui.
Voilà. Et le mot chuan, qui exprime cette notion d'enchaînement. Enchaînement avec le point. Et donc, le tai chi chuan veut dire, c'est la boxe de l'énergie suprême. Bon, on traduit, mais très souvent, c'est... on comprend mal un petit peu la portée, mais c'est en pratiquant qu'on sait effectivement ce que c'est que véritablement le tai chi.
Qu'est-ce qui fait que ça s'est développé en France?
Parce que ça répond à un besoin. Parce que les gens...
sont trop stressés.
Ils sont stressés, bien sûr, et ils ont aussi essayé d'autres activités. Et le tai chi apporte une solution là où les autres disciplines ne proposent pas. Et par exemple, sur le côté qu'on a parlé tout à l'heure de l'énergie. Cette énergie-là, eh bien, quand on pratique, on va la ressentir.
Oui, ça, on ressent l'énergie vitale que l'on a dans son corps, dans son
propre
corps.
Et pourquoi on essaye de le faire ressortir, cette énergie? Eh bien, parce qu'elle, elle va nous alimenter notre corps physique, le mental, et je peux aller plus loin, ce que c'est même... la spiritualité, car ce n'est pas uniquement une activité physique, c'est aussi une philosophie et c'est aussi un idéal de vie.
Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, alors je voudrais que vous nous disiez le mot de la fin ou ce qui est important. Donc, j'ai compris aussi que c'était tellement complet que ça associait... le mouvement, donc le corps, le physique, et aussi le mental et la spiritualité.
Je crois que c'est très souvent, dès les premiers cours, eh bien, les gens se rendent compte qu'ils ne marchent plus pareil, qu'ils ne restent plus de la même manière, et... les maîtres disent, il suffit de regarder les yeux, les gens, après une séance de pratique, pour voir l'impact du tai chi sur eux. Et je pense que ça, c'est véritablement, c'est un impact, c'est un cadeau que nos aînés nous ont laissé. Et c'est vraiment on peut dire que c'est vraiment un patrimoine universel que nous avons la responsabilité de le faire perdurer pour le bien de tous.
Voilà, et bien ce sera le mot de la fin. Un patrimoine à faire perdurer, c'est au Cercle Laïque, à Dreux, pour les débutants, le jeudi de 18h à 19h30. Et je dis au revoir.